Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Frères et sœurs, la grande fête qui nous réunit aujourd'hui et cette annonce pour nous aujourd'hui, cette parole qui se réalise en Marie. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. La prière d'ouverture de cette fête commence par ces mots. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge. Tu as voulu. Avant le oui de Marie, précède cette immense bienveillance, ce vouloir bon de notre Dieu. Cette fête nous tourne tout de suite vers ce bon vouloir divin. Que signifie-t-il pour nous? Cette admirable volonté de notre Dieu, loin de se méfier de l'humanité, loin de la regarder de haut ou de loin, avec prudence ou condescendance. Notre Dieu, loin de vouloir se méfier de l'homme, fait entièrement, absolument, divinement confiance à l'humanité de Marie. Et frères et sœurs, cette humanité, c'est la nôtre. Voilà. Cette fête nous dit tout de suite l'espérance, la confiance infinie que Dieu met dans l'humanité, dans notre chair, avec tout ce que comporte cette humanité qu'il a voulu créer au commencement et pour toujours, à son image et ressemblance. Oui, cette venue bouleversante de Dieu, de son Verbe éternel dans la chair, dit pour nous aujourd'hui, comme pour Marie bien sûr, non seulement la délicatesse de notre Dieu, mais le fait qu'il se compromet, mettez le mot entre guillemets, avec l'humanité. Il aime l'humanité au point de s'y incarner, au point de devenir homme. Et donc, loin de vouloir faire échapper l'homme à son humanité, ce que beaucoup d'aujourd'hui d'ésotérisme cherche à montrer, non, le Verbe s'est fait chair. Il n'est pas simplement venu nous parler dans des réseaux sociaux. Il s'est fait chair, voilà. Et donc, il y a en Dieu une immense attente, une immense espérance en notre humanité. Et Marie, et de toutes les créatures humaines, toutes les sœurs en humanité, celle préparée par Dieu, longuement préparée par l'histoire d'un peuple qui a mis du temps pour faire confiance et pour ne pas se décourager devant les limites de l'humanité, mais au contraire, de les découvrir comme le lieu dans lequel ces limites viennent nous inscrire son image profondément. Oui, il faut dire et redire aujourd'hui que notre humanité est bonne pour Dieu. Il faut dire et redire que Dieu met en nous une espérance inouïe. Et que si nous parlons de la vertu d'espérance ou de la vertu de foi, c'est parce que Dieu, le premier, porte en lui une immense espérance, une immense ambition pour nous, ses créatures. Une ambition paternelle. Aujourd'hui, le mot a besoin tellement d'être... Mais en Dieu, ce n'est pas la paternité comme nous la connaissons. Elle est tout autre, parce qu'elle est éternelle. C'est-à-dire qu'en Dieu, il n'y a aucune espèce de retour sur lui-même. C'est comme si on pouvait presque dire que le Père ne pensait jamais à lui. Voilà. Ce qui était, nous, absolument impensable. C'est le cas de le dire. Donc, en Dieu, il y a cette immense magnanimité, cette immense bienveillance, ce vouloir bon, reconnu par les saints et les saintes qui l'ont peut-être mieux entendu que d'autres et surtout qui se sont convertis à cette bienveillance divine. Pour eux-mêmes, bien sûr, mais pour les autres. Marie est cette terre promise, préparée par Dieu, mais elle n'est pas une terre dans le cosmos. C'est notre terre, c'est notre humanité profonde, c'est notre histoire. Marie est le prototype le plus beau, le plus accompli de l'humanité. Elle est pleinement femme. Oui, en elle, Dieu épouse entièrement notre vie humaine, au point de s'incarner. Son Verbe se fait chair. Le Verbe éternel de Dieu a pris chair dans le sein de la Vierge Marie. Et la prière de la liturgie commence par ces mots qui sont bouleversants si nous y réfléchissons et surtout si nous cherchons à contempler ce mystère. Si nous cherchons maintenant à considérer ce frère qui a achevé son pèlerinage sur la terre, qui s'appelle Pierre Goursat, et si nous demandons à ceux qui l'ont côtoyé, quels sont les mots qui vous viennent tout de suite à l'esprit ? Je pense que beaucoup diraient humilité et pauvreté. Je pense que ce n'est pas le lieu ici d'aller faire une description. D'ailleurs, plus les personnes sont vivantes, et Dieu sait que Pierre l'est vivant, bien sûr, plus nous devons être très prudents et délicats pour nous approcher du mystère d'une personne. Surtout ne pas dire que nous le connaissons. Ce n'est pas parce qu'on l'a côtoyé qu'on le connaît. Dieu seul connaît parfaitement le cœur humain. Dieu seul est l'ami ultime du cœur humain. Et nous revenons ici au mystère de l'incarnation, au mystère de l'annonciation. Mais ces deux mots, humilité, pauvreté, disent quelque chose de la première béatitude. Nous savons, enfin ceux qui ont connu un peu Pierre savent que c'était un homme qui, à côté du lieu de l'adoration, sur la péniche, en bordure de Seine, sur la Seine, disons-le, avait juste à côté aussi le lieu où il recevait continuellement des drogués, des paumés de la vie, des perdus de la vie, voilà. Et Pierre n'a pas fait simplement des discours sur les pauvres, il a consacré beaucoup de temps et il savait s'interrompre, même s'il était avec des personnages importants, si un paumé sonnait à sa porte. Et à côté du lieu de l'adoration où il a vécu tant d'heures devant le Saint-Sacrement, il y avait ce lieu où il accueillait, et m'a-t-on dit même chez lui, régulièrement, ce qui était un peu risqué parfois, des paumés, voilà. Mais parce que Pierre aussi n'a pas eu une réserve d'argent pour lui, il donnait ce qu'il avait, voilà. Pierre n'a pas compté ses aumônes, ça c'est sûr, il était même un peu fou là-dessus. Voilà, humilité et pauvreté. Alors, il a une expression un peu qui lui est propre, que j'essaie de retrouver. Il disait souvent à ses proches, c'est rapporté par notre ami Francis Cone, qui l'a très bien connu. Écoutez bien, tant qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on était un pauvre type, on n'a rien compris. Tant qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on était un pauvre type, on n'a rien compris. C'est une façon très simple de dire, avec les mots de Pierre, non seulement une humour sur lui-même, mais plus profondément, la certitude qu'il n'était rien sans la grâce. Mais attention, tout à l'heure le père Étienne Kern a parlé de l'héroïcité des vertus, c'est cela là, le caractère vénérable d'une figure que l'Église nous propose comme exemple, c'est vrai. Ça veut dire qu'il s'est battu avec lui-même. Ça veut dire qu'il a combattu. La grâce ne fait rien sans nous, voilà. Mais avec nous. Et le mystère de l'Annonciation, j'y reviens parce que c'est la lumière de ce soir et de toute notre vie, c'est aussi que le « avec nous » n'a rien à voir à tout ce que nous pouvons imaginer. Ce n'est pas simplement « je vous défends », ce n'est pas simplement « je suis de votre côté », ce n'est pas simplement « je vous accompagne sur la route ». Non, je deviens solidaire en toute chose de votre humanité en devenant homme. Et pour Pierre, je crois vraiment que la béatitude des pauvres, c'est qu'il a voulu se faire pauvre aussi. Et il l'a manifesté tout à l'heure en entrant et en voyant le tableau. Je pense qu'il doit sourire, mais il n'était jamais à cette place dans les assemblées, vous le savez très bien. Il se mettait au fond, et C'était pas l'homme à se mettre devant, hein, franchement pas. Donc voilà, il s'agit aussi de le situer dans l'immense multitude de ceux et de celles qui nous attirent vers le mystère de l'incarnation. Mais aujourd'hui, l'incarnation, pour beaucoup de gens, veut dire simplement les éléments humains, voilà. Ne nous parlez pas de Dieu, disent beaucoup de gens aujourd'hui. Écoutez, ça c'est votre affaire. Et nous disons, pas d'approche profonde du mystère de l'homme sans celui qui est venu élever l'humanité pour lui faire participer à sa divinité, sans fuir l'humanité, sans quitter l'humanité, attention. Combien de spiritualités visent plus ou moins une évasion, voilà. Eh bien non, l'Annonciation pour Marie n'était pas une évasion. Et il n'y a pas été demandé après l'Annonciation de se retirer je ne sais où pour se protéger contre l'humanité. Ah non. Et même ceux qui peuvent approcher ce mystère, Saint Jean en particulier, mais Luc aussi bien sûr, qui a parlé, en tout cas qui a reçu le témoignage de la mère de Jésus directement sans doute, ou très, très proche d'elle, percevaient que quand on s'approchait d'elle, imperceptiblement, quand on l'a quitté, on se sentait devenir meilleur dans notre humanité. Voilà. On ne se sentait pas devenir un pur esprit. Voilà. Elle est vraiment mère de Jésus, avec tout ce que comporte le mot de mère. Elle a allaité, elle l'a porté, elle l'a mise au monde, et il est la chair de sa chair. Voilà. Dans le mystère de cette incarnation virginale. Dans le mystère de cette puissance de l'Esprit Saint, unique c'est vrai, mais qui pourtant éclaire beaucoup mieux que nous ne le pensons ce qu'est la maternité, ce qu'est la virginité, et ce que veut dire aussi cette proximité, mais le mot est insuffisant, cette trouvaille divine de l'amour pour nous maintenir, pour nous élever dans notre humanité, ou nous faire retrouver notre humanité selon son plan créateur, s'incarner, voilà. Ce qui est inimaginable. Voilà. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, n'est pas un petit peu Dieu, un petit peu homme. Non, il est pleinement Dieu, pleinement homme. Voilà, ce soir, je reviens sur cette belle contemplation très rapide, mais du début de l'évangile de Luc, de l'Annonciation. Voici que la Vierge enfantera, tu enfanteras, dit l'ange à Marie, tu donneras le nom de Jésus, de Dieu sauve, au fils de tes entrailles. Voilà, nous demandons maintenant ce soir avec Pierre, notre ami Pierre, notre frère aîné Pierre, de ne rien dramatiser, touchant notre propre humanité pécheresse, de ne pas nous accabler au-delà de ce qu'il faut, mais surtout, très au-delà d'ailleurs de la reconnaissance de notre être de pécheur, et Dieu sait si Pierre le reconnaissait, il disait au moment, je suis un vermisseau, bon, un peu à la manière de Paul, mais Pierre ne cherchait pas à faire des phrases, on le sait très bien. Et une dernière chose peut-être qui peut aussi réconforter certains parmi nous, Pierre a aussi connu sur son pèlerinage sur la terre, sa mission de chrétien, sa conversion permanente, avec une grande fragilité de santé. Ce qui, pour ceux qui ne connaissent pas ces fragilités, ne dit pas grand-chose, mais qui, pour ceux qui sont marqués par des fragilités de santé, savent très bien que c'est une diminution, enfin, c'est une limitation de certaines potentialités, qualités. Or, Pierre a traîné tout de même, enfin, il a eu la tuberculose, et puis même toute sa vie, il a traîné quand même des difficultés. Je ne connais pas le détail, mais enfin, Pierre n'a pas été un homme en parfaite santé toute sa vie, c'est loin du cas. Donc, il y a aussi ce qui a été permis par la Providence, non pas voulu directement, bien sûr, et c'est à travers aussi ses propres fragilités, qui n'ont rien à voir avec le péché ici, que Pierre a été ce témoin, et pour nous toujours ce témoin humble, humble et pauvre, qui seul fait signe pour un monde qui s'épuise à considérer l'humain sans Dieu, qui s'épuise à ne chercher que des règlements de compte, qui s'épuise à régler des comptes ou à juger. La Vierge Marie, elle est dans le jugement de Dieu qui est tout autre. Le seul qui est condamné, c'est l'adversaire de l'homme, le malin, qui n'est pas cher comme nous, hein, qui est esprit révolté. Le seul qui ne peut pas entrer dans le mystère de l'incarnation, enfin le mystère de l'Annonciation, c'est l'adversaire, celui qui n'écoute plus rien que lui-même, qui pense que la seule raison, c'est lui contre Dieu, et contre les autres, évidemment, du coup. Nous demandons ce soir un renouvellement très profond de la joie d'être des humbles que Dieu appelle pour que son mystère d'incarnation continue d'agir dans le monde à travers son corps mystique qu'est l'Église.